tout de suite direction la sortie avec notre première invitée. Nous vous emmenons en promenade en compagnie d'une photographe venue exprès de Marseille pour nous guider dans l'exposition de ses 35 tirages grand format et couleur. C'est à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris qui a rouvert ses portes comme quelques musées le 3 juin dernier pour le plus grand bonheur de l'artiste et des visiteurs dont nous avons été et dont j'espère vous serez. Ce sont des photos prises à Marseille, à Alger ou au Ghana, souvent la nuit ou à ce moment si particulier de la journée qu'on appelle entre chien et loup, un moment fait à la fois d'obscurité et de lumière, et avec elle, la vision éculée de la photo comme fenêtre sur le monde prend tout son sens. Bonjour Marie Beauvau.
Bonjour Caroline.
Merci d'être avec nous ce matin. On est devant la vitrine, le portail de la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. On est rue des Archives. Merci d'avoir fait le voyage. Vous avez quitté la cité phocéenne où vous habitez pour nous rejoindre parce que la Fondation a rouvert ses portes le 3 juin dernier, présentant une exposition avec vos œuvres. Et on va pénétrer dans cette exposition qui a pour titre « Nocturne » au pluriel. Je vous en prie, Marie Beauvau.
Merci.
Nocturne, c'est donc le titre, Marie Beauvau, de votre exposition. Bon, il faut dire que vous avez photographié la nuit, la lumière, avec un temps de pause assez long, même parfois très long. Et la première chose qui frappe quand on entre dans cette pièce où sont exposés vos grands formats, c'est la couleur. C'est la lumière et c'est la couleur. Alors, première question pour vous. Il a toujours été évident que vous deviez photographier la nuit en couleur.
Ah oui. Oui, ça, c'est quelque chose de très important. Je me suis souvent demandé si, finalement, dans la culture occidentale, il n'y avait pas une certaine haine de la couleur. Parce que la couleur, dans la tradition occidentale, elle est considérée comme trop féminine, trop cosmétique, trop infantile, trop du côté du corps, de la matière. Et justement, la nuit, la couleur, c'est quelque chose qui surgit toujours à partir du noir, à partir d'une masse, d'une matière. Et à ce moment-là, la couleur, elle est un événement en soi, elle est la matérialité des choses. Et puis elle nous échappe un peu, elle nous déplace. Et dans tout le travail... qui est dans toutes les photographies qui sont exposées ici, chaque fois la couleur, finalement, elle va dire les choses d'une manière très, les choses, mais je parle pas de quelque chose d'abstrait, je parle des objets, je parle des casseroles qui sont là pour préparer le repas, qu'elles soient dans les evening settings ou dans la voie de chemin de fer, dans ce campement de Rome, ou qu'elles nous disent ce ciel si beau mais si pollué dans les cours de Marseille quand il y a des entrées maritimes. Cette couleur, elle nous assigne à une forme de présence aussi, à être avec les choses et avec les lieux.
Au final, c'est un travail très pictural. Est-ce que si on dit ça, ça vous fait plaisir ?
Ah oui, oui, oui. Moi, ça me fait tout à fait plaisir parce que je pense qu'il n'y a pas d'assignation de la photographie à une identité qui lui serait une fois pour toutes dévolue et qui la cantonnerait dans un cadre précis. La photographie aussi nous amène à une perception de la couleur qui, peut-être pour moi, elle est très liée au temps. Par exemple, dans la série du campement de Rome, de la voie de chemin de fer.
On va aller se mettre devant.
Quand vous voyez ces bleus qui paraissent complètement irréels, c'est des photographies qui sont à la chambre, c'est du négatif et c'est tiré à l'agrandisseur. Donc il n'y a pas de retouche numérique pour calmer ou pour adoucir les couleurs. Or la couleur, c'est un corps qui réagit avec son environnement.
Là, je fais juste une parenthèse, pardon de vous interrompre, Marie Beauvau, pour nos auditeurs et nos auditrices. Si on se met devant, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos très grand format. Si on se met devant ces photos, ce qu'on voit d'abord, c'est effectivement beaucoup de couleurs avec des formes qui pourraient être, si c'était de la peinture, des formes abstraites, enfin des tableaux abstraits. Et en fait, il s'agit de photographies prises de haut, d'un campement rom situé près de Marseille, à Marseille même. Et c'est une photo où l'on voit des rails de chemin de fer traverser de bas en haut ou de haut en bas l'image, et de part et d'autre le campement, donc avec des tentes, des caddies qui sont posés, des, vous le disiez, des casseroles, des tables, des couvertures, etc. Et c'est ça qui forme à la fois la matière et la couleur. Voilà, fin de la parenthèse de la description. Vous étiez sur la couleur.
Oui, je voulais juste vous parler de cette photographie qui, elle est prise à 6 heures du matin. C'est le jour qui se lève et la zone paradoxalement la plus claire, qui est un bleu extrêmement acide, très fort, hein, qui paraît presque artificiel. En fait, c'est le jour qui se lève. Alors que ce qui est éclairé, qui est dans les jaunes, est éclairé par un lampadaire, est encore dans la nuit. Donc là, c'est comme si les choses s'inversaient. La nuit est l'espace lumineux, alors que le jour, en fait, c'est l'espace le plus sombre. C'est le jour qui arrive. Et donc là, la lumière, elle nous dit des choses aussi sur le temps, le moment. Et puis aussi un peu, elle nous déplace, elle suspend notre jugement sur un espace qu'on aurait tendance à préjuger comme un espace plus compassionnel, plus victimaire.
Et du coup, elle ne l'est pas du tout.
Et je pense qu'elle ne l'est pas du tout.
Non. Vous parlez de temps. Est-ce que c'est pour cette raison que vos légendes sont souvent réduites, parce qu'elles sont très très concises, à une date et une heure? Là, par exemple, sous la photo dont vous nous parliez, de ce camp de Rome à Marseille, il est écrit 13 avril 2012, 6h05 du matin. Point. Oui. Et sur chaque image, qui sont comme des déclinaisons, des variations d'une même photo, puisque c'est toujours la même prise de vue, on a la seule chose qui change, c'est la date et l'heure.
En tout cas, en ce qui concerne le titre, c'est pas du tout une assignation, hein. C'est pour accompagner. Moi, je suis toujours fascinée par l'unité que constitue une journée. Et ça se poursuit. Enfin, on vit tout ce qui qu'on soit. Et là, pour le coup, il y a peut-être des échecs de l'universalisme. Mais en tout cas, il y en a un qui, de fait, fonctionne. C'est cette journée qui est une unité. Qui nous concerne tous, qui que nous soyons ou que nous vivions, on est tous liés à cet espace du quotidien, à ce rythme qui va constituer aussi notre vie. Elle est faite de journées. Et en fait, renvoyer juste à une heure et puis à une journée, c'est renvoyer aussi finalement à cette échelle qui est une échelle du quotidien, mais qui est une échelle élémentaire et qui dit pas plus. C'est pas tant le temps qu'elle ondulaire, mais rappeler aussi la singularité de cette journée qui n'avait peut-être rien d'autre de singulier, qui n'avait aucun événement exceptionnel. Juste, elle existait, cette journée-là. Et l'heure, en général, c'est le moment où je commence la prise de vue.
C'est du temps, mais c'est aussi des lieux. Donc ce lieu, en l'occurrence du camp de Rome à Marseille, aux Arnavaux, dans la zone portuaire des quartiers nord. Et puis un lieu très particulier, Marie Beauvau, qui est la deuxième série de votre exposition, que vous avez intitulée « En Suisse, le Palais du Roi », et qui en fait était le nom d'un espace, d'un lieu, d'un kebab, tout simplement, qui était juste, on est encore à Marseille, qui était situé à l'angle de la rue des Feuillants à Marseille. Je dis était parce que ce lieu a disparu et vous avez pu le photographier juste avant sa disparition. Pourquoi ce lieu-là ?
Alors, j'avais une relation avec ce lieu-là parce que j'allais souvent, il y a un cinéma en face et j'allais souvent acheter quelque chose à manger avant d'aller voir une séance ou en sortant. Et il faisait partie de ma vie au quotidien. Et d'ailleurs, j'ai jamais imaginé qu'il puisse disparaître parce que je le connais depuis, je crois, depuis que j'étais lycéenne. Et j'étais toujours éblouie en rentrant dans ce lieu-là à cause des céramiques qui
étaient plus vieilles que vous, qui dataient de 1895.
Oui, c'est ça. Et puis ces céramiques,
des céramiques qui représentent quoi ?
Ces céramiques, elles sont très étonnantes parce qu'elles représentent des paysages méditerranéens, mais surtout elles représentent la naissance mythologique de la ville de Marseille. Donc finalement, la constitution de cette ville comme une ville qui est une ville de migration, un migrant arrive, il épouse une fille du coin et puis pour le faire vite, mais voilà, on fonde Marseille. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de la fondation de cette cité. C'est comme si toute la Méditerranée, avec ses histoires, avec les mythes qui se racontent, elle était là. Et là, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle était sur les murs et puis que c'est un kebab.
C'est un contraste kebab. Entre ce qu'on voit sur les murs, c'est-à-dire ces céramiques qui sont absolument splendides. On va aller vers les autres images, Marie Beauvau, de cette série. Des céramiques qui sont absolument splendides. Et puis évidemment, dans un décor de fast-food, d'ailleurs, on le voit sur les tables et les chaises sont basiques. Et de temps en temps, on voit, et là, les détails comptent à chaque fois dans vos photos, une barquette de frites, une canette de coca ou un plateau laissé vide, dans des décors qui sont des décors, effectivement, des paysages mythologiques, des dessins sublimes, quoi.
Moi, ce qui était étonnant, c'est que, en fait, j'ai passé pas mal de temps. Je savais absolument pas qu'il allait être détruit, et ça reste un très grand regret parce que, j'avais l'impression d'une éternité. Elle est donnée à cause de ces céramiques quand on les regarde. C'est Rimbaud, la mer et le quoi l'éternité, hein, la mer et le soleil retrouvés. Enfin, c'est vraiment ça. Ça me paraissait pas possible que ça puisse disparaître. Et puis aussi à cause de la vie, parce que tout le monde était là. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps parce que c'est assez petit, relativement exigu, et qu'une chambre, c'est un gros appareil. Faut le mettre sur un trépied, ça prend de la place, c'est un peu impressionnant. Et donc moi, j'attendais des moments propices pour pas gêner le service, et puis aussi tout simplement pour qu'on s'habitue à ma présence et que je fasse partie aussi des lieux. Et du coup, je discutais pas mal avec les clients et je leur demandais. En fait, non, je leur demandais pas. C'est eux qui me disaient, vous êtes là pour photographier les céramiques. Et chacun me disait, elles sont belles. Alors, on me parlait du bleu. Mais constamment, quelqu'un me parlait, il y avait une frise qui s'inspirait des frises romaines, et me disait, les petits chevaux, et c'était des petits chevaux qui se poursuivaient, et me parlait des petits chevaux. Et toutes les personnes qui étaient là, c'est des gens qui n'iront jamais dans un musée. Et c'est des gens dont on suppose facilement qu'ils voient pas ce qui les entoure. Or, chaque personne me parlait d'abord d'un rapport personnel, intime, mais vraiment très fort, et puis d'une beauté qu'il vivait et qu'il partageait.
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Marie Beauvau,
C'est encore un fast-food.
Mais les céramiques ne sont plus là.
Elles ont disparu parce que, il faut bien le dire, à cause de l'incurie de la ville de Marseille, elles sont soit inscrites au patrimoine, soit répertoriées. Enfin, toujours est-il que quand le fast-food a été vendu, la mairie a demandé à ce qu'elle ne soit pas détruite. Mais elle n'y a eu aucun suivi de chantier. Et le nouveau propriétaire, il avait rien contre ces céramiques, mais lui voulait faire un fast-food moderne. Et donc, il a collé des plaques au plâtre dessus. Et je le répète, il n'y a eu aucun suivi de chantier de la part des autorités du patrimoine à Marseille. Et donc, elles ont laissé disparaître. Et j'ai aucun doute, à moins d'un miracle, on ne les voit plus. Elles sont cachées, on va les oublier et on les perdra. Alors que c'est, même symboliquement pour la ville, c'est une représentation très forte de la naissance mythologique de la ville.
Marie Beauvau, on va laisser passer les informations sur France Culture. Et puis, on va se retrouver avec vous juste après dans cette fondation Cartier-Bresson à Paris pour votre exposition. On va quitter Marseille, mais on va juste traverser la Méditerranée. On se retrouvera à Alger. Il est 7h30 sur France Culture. On est de retour dans cette fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Le lait est en train de sortir de la casserole qui est sur le feu juste à côté de nous. Bah, d'ailleurs, on va y aller, Marie Beauvau, avec notre invitée, donc Marie Beauvau, qui est photographe et qui est exposée dans cette fondation à Paris. Vous faites aussi quelques films et vous présentez dans cette exposition en ce moment un film, une courte vidéo d'une dizaine de minutes. Vous avez laissé le feu sortir de la casserole. Et il se répand dans les rues de Marseille.
Non, j'ai laissé le feu sous la casserole. Mais ça nous est tous arrivé. En fait, l'idée démarre de là.
Oui, c'est le lait qui est sorti de la casserole. Pardon, c'est
fait,
pas le feu.
On oublie le feu sous la casserole. Et en fait, le lait, il déborde. Et en fait, je me suis dit, mais si le lait il déborde et qu'il sort de la casserole, mais alors pourquoi il sortirait pas de l'appartement? Et puis s'il sort de l'appartement, mais pourquoi il traverserait pas la ville? Et s'il traverse la ville à Marseille, alors il y avait une évidence aussi où il allait atterrir. Mais je vous le dis pas tout de suite. Mais le pot, c'est la maison, c'est l'intime. Hein. C'est le pot, vous remarquerez qu'il y en a plein dans cette exposition. Hein. C'est vraiment l'espace de l'intime, c'est l'espace féminin aussi par excellence. Et moi, j'aimais bien que les choses puissent comme ça quitter un espace très intime et suivre une logique qui est purement physique. Un mouvement qui est mis en œuvre, pourquoi s'arrêter? Et donc ce lait, c'est la nuit aussi.
Ah, on est toujours dans la nuit, oui. Il fait peur au chat, là, le lait qui coule dans les rues.
Oui, c'est la nuit, mais la nuit est noire et le lait est blanc. Le lait, c'est une très belle matière, hein. C'est une matière nourricière. Et elle traverse cette ville de Marseille. Et peut-être que c'est une écriture en négatif d'un portrait possible de la ville, de cette ville qui est en pente, qui est faite de collines et qui va vers la mer. Et le lait, il croise ce qui se trouve dans la ville la nuit, ce qui se trouve au sol, des détritus, puis c'est aussi des gens qui dorment dans la rue. C'est toute une famille à un moment qui croise avec des enfants qui sont là, qui dorment par terre sur le trottoir.
Et vous avez intitulé cette vidéo « La Voie lactée », quand même un très très joli titre. Et donc quand le lait arrive à destination, bah peut-être qu'il ne s'arrête pas dans cette mer, qu'il la traverse pour se retrouver à Alger, avec ses fenêtres sur le monde qui se trouvent en l'occurrence à votre droite. On est à Alger face à une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 images qui sont toutes avec la même prise de vue, sauf que ça n'est pas la même fenêtre. On est dans un appartement, on est encore dans un espace donc intime, l'intérieur, mais fenêtre sur le monde, qui est l'image de la photographie par excellence. Vous avez ouvert les battants, les deux battants d'une fenêtre de chaque pièce de cet appartement et qui ouvre donc sur la ville d'Alger avec des paysages différents, des lumières différentes. On est toujours le soir. La nuit.
On est toujours le soir.
Et des couleurs différentes.
En fait, quand on les regarde, on passe d'une pièce à l'autre comme si on... Pour moi, c'était comme si je me promenais dans un paysage qui est cette expression du paysage intérieur. Mais l'appartement, c'est souvent l'intériorité aussi. Et la première pièce, c'est une chambre. Elle est rose. Elle a un rose comme ça qui est très intense et qui est rendu d'autant plus intense parce que c'est la nuit et que la lumière électrique vient littéralement l'électriser. Il y a du jaune dans de nombreuses lumières électriques. Et donc, comme ça, il prend une vibration, une présence. Et aussi, on a parlé de la fenêtre ouverte, mais il y a ce sol avec ses carreaux de ciment. Chez moi, à Marseille, c'est pareil. Enfin, je veux dire qu'il y a les mêmes carreaux de ciment au sol. Il y a ces villes haussmanniennes, hein, en fait, ce 19e siècle. On est dans une ville coloniale. En fait, mon expérience de la fenêtre, au-delà de la métaphore de... Bien sûr, la première photographie, c'est une fenêtre. Du moins la première photographie que nous connaissions. La peinture a une des métaphores pour parler de la peinture, c'est cette idée de la fenêtre ouverte sur le monde. Mais là, en l'occurrence, on est dans une rue qui est relativement étroite. Et en fait, on est dans des jeux de vis-à-vis où de la fenêtre, on voit les façades des appartements qui sont en face. Et comme c'est la nuit, il y a une sorte de renversement. On ne sait plus exactement qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur. En fait, c'est le jeu des regards, c'est la circulation des regards. Moi, ce c'est quelque chose de familier. J'ai toujours vécu dans le sud de l'Espagne, dans le sud de la France. La circulation du regard est très différente. On ne regarde pas à l'intérieur des maisons. Les maisons, elles sont toujours protégées d'une certaine manière par des rideaux, par des volets. Et donc, il y a un jeu de circulation qui est beaucoup plus complexe. On ne sait pas si les maisons sont habitées. Parce que la plupart du temps, durant la journée, les volets sont clos. Il y a quelque chose de minéral, de vraiment... assez austère en définitive, et on n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur.
Précisément, vous dites, on ne sait pas si ces maisons sont habitées. À ce stade de notre visite, Marie Beauvau, j'ai quand même envie de vous demander où sont les êtres vivants, les êtres humains de vos images. On n'en voit pas un seul, et dans le livre, le catalogue qui accompagne l'exposition, on peut lire cette phrase d'Alain Bargala. La photo chez Marie Beauvau est un art de la disparition. Est-ce que vous seriez hanté par l'absence et plutôt par l'empreinte que laissent les humains dans les espaces intimes, quotidiens, que vous photographiez ?
La disparition, je trouve que c'est vraiment intéressant pour la photographie, parce que ça se rencontre tout le temps. Et en fait, quand on regarde les cours intérieures, mais Alger, c'est pareil. On voit dans les appartements, on voit du linge qui est suspendu. Vous trouverez jamais ça dans un appartement bourgeois. Dans certaines villes, on n'a pas le droit d'étendre son linge dehors. C'est pas du tout du folklore. Ce qui se joue, c'est des choses très importantes. C'est des manières de vivre.
Qu'on voit aussi dans les cours intérieures que vous avez photographiées au Ghana.
Au Ghana,
linge, les objets du quotidien, la table où l'on mange, les casseroles où on fait cuire, le mortier, enfin, tous ces gestes qui disent des pratiques quotidiennes et intimes, sans les humains, mais avec eux.
Sans les humains, parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils se sont absentés pour différentes raisons. Là, en l'occurrence, on est dans des moments de préparation. Donc, en fait, souvent, simplement, le travail n'a pas été terminé. Et on met en place le repas, on finit, puis on va revenir. Et c'est ce moment de mise en place que j'ai photographié. Parce que tout est là, parce que l'activité s'amorce. Et que, en fait, chaque maison, chaque foyer, il va créer une constellation d'objets qui lui est propre, qui va être, il y a du linge qui sert. On a mis en place un brasero. Enfin, il y a tous les éléments nécessaires pour cuisiner, mais on est là dans une pratique intime à laquelle, je veux dire, c'est pas de la grande cuisine, c'est juste du vivre. C'est comment on vit dans un espace aussi.
Comment on vit dans un espace intérieur, un immeuble, une cour. Comment aussi on vit dans un espace mobile, en l'occurrence un bus. Et là, on retrouve les êtres humains, ils sont présents. Vous les avez filmés, Marie Beauvau. En fait, c'est le dernier travail que vous avez fait, il date de 2020. C'est à nouveau un film, une petite vidéo en couleur avec du son. On est dans un bus, donc. Vous avez suivi des ouvriers qui allaient au travail. Vous nous racontez, il y a une chanson et ça sera le chant de la fin.
D'accord. Oui, en fait, c'est les ouvriers qui partent travailler. Donc, à côté de Kasunia, à Tsutswaré,
au Ghana.
Toujours au Ghana. On est à peu près à 80 kilomètres d'Accra. Et donc, c'est dans ce lieu où j'ai séjourné. Et il y a de nombreuses plantations de bananes et de nombreuses rizières. Et donc là, j'ai suivi, en partant d'Assoussoiré, où il y a une gare des bus, les ouvriers qui prennent le bus pour aller travailler.
De nuit ?
Alors oui, parce que il fait très chaud, donc on commence la journée très tôt, parce qu'elle va finir plus tôt également. Et donc, il est 4h du matin lorsque j'arrive, en même temps qu'arrivent les bus et qu'arrivent les personnes qui vont partir travailler. Je monte avec eux dans le bus, on va vers la bananeraie. Et voilà, je me suis installée. Au fur et à mesure, le bus se remplit et le premier bus part.
Et ce qui vous frappe, c'est que ils se mettent à chanter.
Et ce qui me frappe, effectivement, c'est que le bus va se mettre à chanter et il va y avoir un ouvrier puis une ouvrière qui vont prêcher. Il y a une forte présence évangéliste, comme dans de nombreuses parties de l'Afrique. Mais là, ce qui est un petit peu particulier, c'est que tout le monde est comme ça dans ce moment un peu de... Alors d'une part de transit et puis à la sortie du rêve. Et on est dans ce chant comme ça qui va accompagner tout le cheminement jusqu'à la bananerie.
Et jusqu'au jour et jusqu'au travail. Un peu comme nous avons cheminé du crépuscule à l'aube grâce à vous, Marie Beauvau. Entre chien et loup, hein, c'est vraiment le travail que vous nous montrez, qui est un travail absolument magnifique. Merci beaucoup d'avoir fait cette visite commentée avec nous ce matin.
Je vous remercie. C'est un plaisir.
Nocturne, c'est à la Fondation Cartier-Bresson à Paris jusqu'au 23 août. Et pour fêter la réouverture, tous les visiteurs bénéficient du tarif réduit de 5 euros jusqu'au 30 juin. Tarif réduit qui donne également à voir l'autre exposition de la Fondation, les portraits réalisés par Martine Franck. Merci à Jean-André Giannichini pour la prise de son et à Assia Khalid pour la réalisation.